Rebienvenue à En profondeur. Ce lundi 29 septembre, nous sommes en studio avec Louis, Joseph et Julia de la rubrique Daily, le journal francophone de McGill. Bienvenue.
Bienvenue, merci.
Alors,
merci.
Je vous passe la parole.
Merci. Alors, moi, c'est Joseph, le rédacteur en chef du Daily français. Je suis venu accompagner aujourd'hui pour notre rubrique hebdomadaire, accompagné de Julia Denis, notre rédactrice société. Bonjour.
Bonjour.
Et je suis venu accompagner avec Louis Baudouin.
Bonsoir Joseph.
Salut. Alors, on va commencer cette rubrique avec un premier texte de Gabriel Cholette, qui est une lettre ouverte qu'il nous a gentiment envoyée au Daily. Alors, Gabriel Cholette, c'est un étudiant du département de langue et littérature française de l'Université McGill. Son texte s'appelle « De la mort de la littérature ». Et son sous-texte, son sous-titre s'appelle « Réflexion de café sur l'état de la littérature ». Je m'excuse tout de suite à la personne qui se reconnaîtra peut-être dans cet article et qui verra que je lui fais une réponse ouverte dans le journal. Food for thoughts, qu'ils disent. Ce n'est rien de personnel. Alors, j'étais au café. 7 a.m., un peu endormi. Je profite de l'absence du client pour avancer ma lecture obligatoire de la littérature, 1802, livre de Germaine de Staël. Surtout, j'essaie d'y comprendre quelque chose. Un client arrive, il me dit « On lit de la littérature classique ?» Je le corrige gentiment. « Oui, je suis dans l'avènement de la modernité. » Rapidement, je lui explique que j'ai de la misère à comprendre les longues phrases complexes de l'œuvre, que les mots me sont compréhensibles, mais que j'ai de la misère à en comprendre le sens. Bang, badaboum, il me répond « C'est la mort de la littérature. Pire, la mort de notre culture. » Waouh, minute. Madame de Staël est un monument dans l'histoire de notre littérature. Elle permet le passage d'un modèle basé sur l'imitation des anciens à une conception moderne du concept de littérature. Placé dans le temps de la Révolution française, avec Madame de Staël, l'individu passe d'une relation de dépendance envers son vassal à une relation démocratique, ce qui change fondamentalement notre conception envers l'autorité, et de ce fait même la conception de notre individualité. Germaine de Staël est notre héritage. Nous avons toujours une conception plus ou moins semblable de la littérature aujourd'hui. Sauf que de dire que la baisse de la popularité et de compréhension de Madame de Staël équivaut à la mort de la culture, pour moi, c'est un peu fort de café. Ce qui m'ennuie le plus avec ce propos, la mort de la culture, c'est qu'il ressasse l'un de ces vieux lieux communs omniprésents de nos jours, celui que la culture d'aujourd'hui n'est qu'une version dégénérée de ce qui se faisait avant, ce qui est problématique. En effet, ce n'est pas juste une question de style. On ne condamne pas seulement la littérature de nos jours parce qu'elle n'est pas écrite au passé simple ou au passé composé, ou parce que ses phrases ne sont pas interminables et d'une complexité si grande qu'elles auraient pu être écrites par un Proust ou un Balzac ou un Flaubert, pour n'en nommer que quelques-uns. Non. En déclamant que la chute de Germaine de Staël équivaut à la chute de la culture, c'est de vouloir mettre au centre de la culture des textes qui ont une expression dépassée dans le temps, où les idiomes et les référents ne sont plus aussi immédiatement compris que par le contemporain de la littérature, c'est de concevoir la culture, avec un C majuscule, comme un lieu aride et difficile d'accès. Et il faut dire, Madame de Staël n'a presque pas d'importance dans cette réflexion. Je m'inquiète plutôt des alarmistes qui disent que « plus rien ne se fait de nos jours ». Pour ma part, j'aime encore lire des vieux textes médiévaux qui me permettent de développer une vision de la littérature et qui me permettent aussi, c'est peut-être le fond que l'on oublie souvent, de m'amuser, de me divertir. Et puis regardons ce qui se fait autour de nous. Catherine Mavrikakis vient de publier La Ballade d'Ali Baba. Les Samuel Archibald écrivent une littérature de péripéties et d'action qui semble s'inspirer beaucoup de la littérature américaine. Geneviève Peterson, au Cartanier, reprend complètement la langue de la littérature en s'exprimant par celle du Saguenay dans La Déesse des Mouches à Feu. Il y a tout à croire que notre culture est encore en vie. Mais en disant, par exemple, que la non-lecture des textes de Chrétien de Troyes équivaut à la mort de la littérature, Chrétien de Troyes, c'est un auteur médiéval, il me semble que c'est une mauvaise conceptualisation de ce qu'est réellement la littérature. Si pour accéder à cette littérature, il me faut des années d'études, autant bien barrer les portes de la tour d'ivoire et ne plus y penser. Soli Deo Gloria. Après tous les efforts des auteurs d'élargir le périmètre de la littérature, de rendre plus accessible la culture, il me semble que la hiérarchisation des genres ou des époques n'a plus raison d'être. Ce qui importe plus que de créer une liste de classiques à lire avant de mourir, comme on nous le fait souvent dire, c'est de laisser un plaisir au texte qui n'est pas associé à une nécessité de lire. C'est de définir la littérature comme devoir, comme obligation. Lire Proust parce qu'on a entendu que c'était nécessaire de la faire. Non, c'est de lui enlever sa liberté. C'est aussi, par le fait même, bannir des œuvres contemporaines parce que la clé pour les comprendre se retrouve dans des textes anciens. C'est rendre inaccessible la culture de notre temps. Et là, on pourrait effectivement parler d'une mort de la culture. Alors voilà, c'était un texte de Gabriel Cholette sur la mort, entre guillemets, de la littérature. Je vais maintenant passer la parole à Louis.
Merci Joseph. Donc moi aujourd'hui, je voudrais parler un peu de la situation des étudiants internationaux à Montréal. En effet, Montréal, c'est une ville, comme on le sait tous, très populaire pour les étudiants et aussi en particulier pour les étudiants internationaux. Seulement, les étudiants internationaux délaissent Montréal depuis quelques années. Leur nombre décline. Et donc, pour contrer à ça, le maire de Montréal, Denis Coderre, a récemment organisé une conférence de presse avec plusieurs institutions universitaires et les médias, bien sûr. Et donc, notre éditeur d'actualité, Léo Arquet, s'est déplacé et a écrit le texte que je vais maintenant vous lire. Sur la situation, pour résumer, le texte s'appelle « Les étudiants internationaux délaissent Montréal » et le sous-titre est « Coderre et les universités cherchent des solutions ». Les médias québécois étaient invités jeudi 25 septembre à une conférence de presse à l'hôtel de ville de Montréal. L'événement organisé par la Conférence régionale des élus, CRE, avait pour thème l'urgence d'agir et d'agir pour attirer et retenir les meilleurs étudiants internationaux à Montréal. En effet, depuis quelques années, la proportion des étudiants étrangers à Montréal par rapport à d'autres régions est en chute libre. L'heure serait à la collaboration entre le gouvernement et les établissements d'enseignement supérieur pour créer des stratégies et une politique d'internationalisation. Étaient présents le maire de la ville, Denis Coderre, les représentants de l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM, l'Université McGill, l'Université de Montréal, UDM, et l'Université Concordia, ainsi que quelques autres intervenants. Montréal est une ville universitaire de renommée. Selon les statistiques fournies dans le communiqué de presse de la CRE, elle est la 9e meilleure au niveau mondial et la première au Canada. Mmh. Elle a accru sa population d'étudiants internationaux de 38% de 2006 à 2012. De plus, malgré un recul de l'Occident en la matière, le Canada est un des rares pays à avoir vu sa part mondiale augmenter dans la dernière décennie. De quoi s'inquiète-t-on alors ? Le problème est de nature relative. Avec une communauté étudiantine mondiale de plus en plus nombreuses et de plus en plus mobiles, notamment en provenance de pays asiatiques, la part de Montréal par rapport au reste du Québec et du Canada dégringole. De plus, une quantité importante d'étrangers qui viennent à Montréal n'y restent pas pour travailler après ses études. Comme le souligne Alan Shepherd, recteur et vice-chancelier de l'Université Concordia, nous éduquons des gens pour d'autres villes, ce qui est un problème. De nouvelles stratégies doivent donc s'articuler autour de la coopération entre le gouvernement et les institutions académiques. Suzanne Fortier, principale et vice-chancelière de l'Université McGill, explique qu'elle a eu l'occasion de travailler avec plusieurs pays, comme la France, l'Allemagne ou le Danemark, qui ont développé des façons de faire très agressives pour attirer ces talents-là. La CRE propose de concurrencer avec, entre autres, la simplification des démarches d'immigration et de prolongement de séjour, la mise en place d'incitatifs financiers, des programmes d'intégration professionnelle et linguistique. Des systèmes déjà en place, mais qui nécessiteraient des améliorations. Le maire de Montréal, Denis Coderre, offre son appui sur l'ensemble de ces mesures. À la question du délit sur les stratégies à mettre en place par les universités elles-mêmes, les représentants des différentes institutions ont mis l'accent sur les forces déjà existantes de l'enseignement à Montréal. La présence actuelle d'une forte communauté internationale, les bourses ou les méthodes pédagogiques. L'enjeu principal est évidemment de nature économique. Dominique Anglade, présidente directrice générale de Montréal International, insiste sur le milliard de dollars qui est dépensé chaque année par l'ensemble des 25 000 étudiants internationaux que nous avons sur le territoire métropolitain. C'est-à-dire l'ensemble des dépenses dont les frais de scolarité et les loyers, entre autres. Un milliard significatif sur le développement économique de notre ville, dit-elle. Sur cette somme, environ 88 millions de dollars contribuent au trésor public, selon le communiqué de presse. De plus, les travailleurs qualifiés générés par les universités, notamment dans les secteurs de haute technologie, sont une richesse pour la région. D'autre part, avec les récentes compressions budgétaires imposées aux universités, on peut légitimement se demander si leur intérêt dans le projet n'est justement pas de se renflouer, étant donné que les frais de scolarité des étudiants internationaux sont bien plus élevés que ceux des étudiants québécois et canadiens. À peu près le double. Non, répond M. Shepard. Au Québec, la majorité de cet argent est réinjectée dans le système. Il ne bénéficie pas uniquement à l'université. Richard Filion, président du regroupement des collèges du Montréal métropolitain, précise que seulement 10% est conservé par les institutions. Attirer les étudiants étrangers a toujours fait partie de la mission de l'Université McGill, ajoute Madame Fortier. C'est une façon d'enrichir le milieu d'apprentissage de nos étudiants. Voilà donc où en est la situation des étudiants internationaux à Montréal. Nous allons voir dans le futur comment la mairie
se charge de cette affaire.
C'est cela. Ouais.
Je crois qu'il y a quelque chose comme 21% d'étudiants internationaux à McGill, à l'Université McGill. Ouais. Et je crois que pour la population française, on est autour de 1500.
Je crois qu'on est la deuxième population étrangère la plus présente à McGill. Ouais.
Les Français de France après les Américains, c'est ça. Ouais. Mais merci Louis pour cet éclairage. Je vais maintenant passer la parole à Julia.
Bonsoir. Ben, moi, ce soir, je vais lancer une nouvelle chronique de la section Société. Mmh. Une chronique écrite par Esther Tabarly, qui est une de nos collaboratrices qui a beaucoup écrit pour le Daily, surtout en actualité. Et là, elle se lance en Société. Sa chronique va s'appeler « Raconter au prix d'une vie ». Et en fait, elle compte faire des portraits de sortes de journalistes de l'extrême, des gens qui nous ont donné des informations très importantes, mais qui l'ont fait parfois au risque de leur vie. Et par exemple, elle va parler de Julian Assange, de Snowden, aussi d'une blogueuse cubaine. Et sa première chronique, elle, se concentre sur Roberto Saviano, qui a écrit sur la mafia italienne, et plus spécifiquement sur la Camorra, qui est la mafia de la région de Naples. Et sa première chronique s'appelle « Condamné de Gomorrhée ». Alors, je vais vous la lire.
Très bien.
Quand on est à Naples, on a peu de chances d'échapper à la grande machine de la Camorra, la mafia napolitaine. Pourtant familière, si proche, paysage d'une enfance, fascinante par la banalité de sa violence, elle est devenue le grand combat de l'italien Roberto Saviano. Son roman « Gomorra », publié en 2006, traduit dans plus de 50 pays, est vendu à plus de 4 millions d'exemplaires, puis adapté au cinéma et en séries télévisées, a fait office à la fois de tremplin pour sa carrière de journaliste-écrivain et d'arrêt de mort. Roberto Saviano, 35 ans, vit depuis 8 ans sous la protection constante des Carabinieri, c'est la police nationale italienne, et change de domicile tous les mois. La mafia est une organisation criminelle plus vieille que l'Italie elle-même, tellement ancrée dans la culture et la vie quotidienne qu'elle est devenue une compagne naturelle pour certains, une ombre pour d'autres. Saviano, né dans une famille bourgeoise, a étudié la philosophie dans sa ville natale. Il a pu échapper aux griffes du système, comme il l'appelle. Mais c'est loin d'être le cas de tout le monde, et il s'en rend compte. Pendant des années, investi dans sa carrière de journaliste, d'accusateur, il est partout où est la mafia. Il observe, s'informe, prend note. Gomorra est un roman, mais il est surtout le résultat d'un regard personnel sur ce fléau d'une région où le taux de chômage est de 25% et où tout est le pantin de la criminalité. Saviano raconte. Il raconte que la criminalité est partout, dans tous les secteurs, et que ses tentacules s'étendent bien au-delà de la Méditerranée. Il raconte les guerres des clans, les actes effroyables de violence, les mutilations, les assassinats par dizaines. Il raconte le bras de fer entre la fascination pour le pouvoir et la terreur. Il tire ses histoires d'entretien avec différents acteurs de la Camorra. Autour de ses recherches, il a su appréhender et comprendre le système et son fonctionnement. Dans Gomorra et dans nombreux discours publics, il dévoile les grands dirigeants de la Camorra, accole des noms et des prénoms aux pseudonymes de ces célébrités inconnues. Plusieurs parrains ont depuis été arrêtés et condamnés. Mais Saviano explique que ce qui a précipité sa condamnation à mort par le clan des Casalesi, ce n'est pas d'avoir contribué au procès. La mafia est plutôt habituée aux tribunaux. Tout a dérapé quand le livre a dépassé les 100 000 exemplaires vendus. Il dit « Pour être honnête, au début, on ne pensait pas aller au-delà de 5 000 ou 10 000 exemplaires au maximum. » C'est le nombre habituel pour un livre sur la mafia en Italie. Mais Gomorra a eu un impact planétaire. Et c'est à partir du moment où la mafia a commencé à perdre de l'argent qu'ils se sont vraiment mis en colère. Saviano est devenu un symbole de la lutte contre le crime organisé. Cette entreprise mondiale, comme lui ne peut s'empêcher de le décrire. Loin de vouloir se taire, le journaliste continue d'écrire, de paraître à la radio et à la télévision. Ce ne sont pas les menaces de mort qui le feront arrêter de dénoncer. Et pourtant, il n'est pas un héros. Il n'est pas qu'un héros en Italie. Beaucoup de ses concitoyens l'accusent de faire de l'argent sur leur dos. Et la mafia est restée un sujet tabou dans toute son ambiguïté. Parce que, dans le bénéfice du doute, elle permet à certains de se sortir de la misère par la dépendance. Roberto Saviano avoue parfois être rongé par le regret de ne pas avoir su préserver une vie normale. Il reste aussi convaincu qu'il fallait parler, qu'il n'est jamais une erreur de vouloir faire changer les choses. « Je n'ai pas peur de mourir », confie-t-il. « Je sais qu'ils me feront payer. Peut-être dans 10 ans, mais je sais que ça arrivera. » Donc voilà, c'était un texte d'Esther Tabarly. Et j'espère que vous avez aimé. En tout cas, si vous avez apprécié, sachez qu'elle sera toutes les 2 semaines dans le Daily, dans une nouvelle chronique. Merci.
Merci, Julia. Bon, voilà pour la chronique hebdomadaire du Daily. On repasse le micro aux ondes d'En Profondeur. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Donc, merci. On a entendu Louis-Joseph et Julia du Daily.